Mais donc ça se voit effectivement sur ces maladies-là. Et donc, je ne sais pas si autour de vous, vous en avez, mais des gens qui ont des grandes maladies rhumatismales. La sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde. Vous pouvez avoir des poussées lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes angoissé. Ça se voit beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, oui, la dame devant.
Oui, j'aimerais savoir la relation qu'il y a lorsqu'un homme commence à avoir une prostatite, donc pour un développement de prostate. Quelle est la relation avec l'émotion, s'il vous plaît?
Là, c'est à voir, je dirais, au cas par cas, hein, puisque c'est vrai que, je vous dis, il ne faut pas généraliser sur une localisation et une interprétation analytique.
C'est quand même une somatisation.
C'est une somatisation tout à fait qui renvoie à une problématique pareille au niveau affectif et au niveau du couple. Puisqu'en fait, la problématique, c'est que si on est... Bon, d'abord, c'est une gêne au départ, donc c'est une gêne dans sa vie, c'est une gêne dans son intimité. C'est une souffrance aussi. Et puis, on sait très bien que quand il y a opération, il y a des risques d'impuissance après, qui sont minimes, mais qui peuvent arriver. Et c'est la grosse problématique à l'heure actuelle de l'opération de l'adénome de la prostate, puisqu'on essaye chirurgicalement d'enlever une toute petite partie et d'être le moins interventionniste possible pour pas castrer l'homme.
Alors que chez la femme, lorsqu'elle a donc une ablation des ovaires...
Mettez-le bien fort contre,
oui,
contre vous.
Oui, je disais, alors que la femme, lorsqu'elle a une ablation des ovaires, d'un ou des deux ovaires, donc, en fait, elle n'a pas de problème ni au niveau sexuel et ni au niveau...
Donc, la personne posait la question de la répercussion pour une femme d'une intervention sur les ovaires. C'est vrai que quand même, regardez, si vous êtes opéré au niveau des ovaires, pour une femme, vous êtes obligé de mettre un traitement artificiel hormonal substitutif, parce que sinon, il y a une répercussion sur la qualité de vie de la femme, sur sa libido, sur tout ce qui est problème de sécheresse vaginale, donc problématique au niveau du couple. Donc, c'est jamais anodin quand même. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je veux dire, donc c'est pareil, au début, ils faisaient des opérations. La médecine, elle évolue, pas forcément parce qu'ils se sont posés des problèmes analytiques, mais quelque part par le bon sens. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait très facilement, on enlevait les ovaires et l'utérus quand il y avait un problème. Après, on a commencé à essayer de garder les ovaires, après essayer de garder le col de l'utérus. Petit à petit, on limite le côté chirurgical et le côté, je dirais, quand même, mutilation, parce que c'est quand même vécu comme une mutilation. Donc ça, c'est pareil, tout le monde n'a pas des problématiques à ce niveau-là.
Bien que sur le plan énergétique, disons que ce soit les ovaires ou la prostate, existe encore, si vous voulez.
Au niveau inconscient, vous voulez dire?
Pardon?
À quel niveau énergétique? Une fois enlevé, vous voulez dire?
Une fois enlevé.
Dans l'inconscient de la personne et
oui.
Dans l'imago? Oui, mais ça dépend peut-être si la personne fait un travail qui lui permet de le... Un travail sur elle et une approche qui lui permet de le vivre comme tel. Parce qu'en cabinet, quand les femmes viennent me voir, il y en a beaucoup, elles vivent vraiment comme une mutilation au premier degré. Et il n'y a pas de symbolisation de l'affaire. Hein. Ça, c'est peut-être aussi quand on fait déjà un travail de réflexion dans ce domaine-là.
Oui, bien sûr, c'est fondamental. Hein.
Oui, ouais. Mais tout le monde n'est pas réceptif. Mais ça, c'est l'intérêt du travail de cabinet, c'est de proposer une diversité de réflexion. Et à chacun de choisir son schéma d'intervention.